Je vous propose d'ouvrir cette conférence de presse. Lorsqu'on est en Bretagne, on dit c'est le quart d'heure breton. Donc c'est le quart d'heure breton appliqué à Paris. Mais il est temps de commencer par égard par rapport à ceux qui étaient là à l'heure. Peut-être d'autres personnes arriveront en cours de route. Donc je voudrais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue dans cette grande et belle maison et noble maison qu'est le Palais du Luxembourg, où officie le Sénat. Je voudrais saluer le président qui nous permet, c'est historique ça aussi, mais qui nous permet d'organiser ce genre de manifestation et de faire venir et la presse et nos concitoyens lors des colloques dans cette maison qui a besoin, qui se doit de s'ouvrir vers la population. Je voudrais saluer la présence de deux de mes collègues, Philippe Bas, sénateur de la Manche, et Marie-Hélène Deshaigeaux, sénatrice de Gironde. Et pour organiser, donc on a eu une part un peu festive au niveau du restaurant du Sénat, puisque les ostréiculteurs traditionnels ont offert une dégustation d'huîtres aux sénatrices et sénateurs. Et je vais vous citer les sénatrices et sénateurs qui se sont associés, vous montrant que notre souhait est d'être pluripolitique et puis d'être pluriterritoire également. Puisque l'ensemble des territoires ostréicoles sont représentés. Donc Michel Le Squarnec et Odette Herviaux, pour eux, ce sont les Morbihannais comme moi. Michel Canvet du Finistère, Françoise Cartron de Gironde, donc Marie-Hélène Deshaigeaux et Philippe Bas, c'est fait pour la Manche, Marie-Hélène Deshaigeaux Gironde et Bernard Lalande de Charente-Maritime. Alors certains de mes collègues se sont excusés. Voilà. Donc cette conférence de presse a pour objet d'attirer l'attention sur la situation très préoccupante de la filière conchylicole. Et en tant que sénateur d'un département littoral, le Morbihan, où l'activité ostréicole joue un rôle important dans l'économie locale, il me semble nécessaire de relayer les préoccupations de bon nombre de ces professionnels. Je vous disais tout à l'heure la possibilité d'ouverture de la maison et de la connexion, parce que plus que jamais, et en 2015, plus que jamais, je crois, on en a parlé en début d'année, il faut que ce soit véritablement une année de transition et que nous, les politiques, avons le devoir et la responsabilité de nous reconnecter avec la population, avec les professionnels, avec le monde syndical, avec les ONG, avec le monde associatif et avec les citoyennes et citoyens pour qu'il y ait un véritable lien entre ce que l'on fait ici en tant que législateur et contrôleur de l'action du gouvernement, et puis les préoccupations de la population. Pour moi, le désamour entre la population et les politiques me touche énormément et je me dis, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, ouvrir, c'est inviter ici et c'est nous impliquer. C'est aussi donner la parole. Donc, la question des huîtres, alors, oui, ils se présenteront tout à l'heure, donc autant de personnes représentant la profession des ostréiculteurs traditionnels regroupés en association présidée par Benoît Joubiou. C'est eux qui auront la parole. Moi, je fais l'accueil. C'est eux qui auront la parole. Et on verra ensuite quelle déclinaison législative ou réglementaire on peut trouver collectivement pour faire en sorte qu'il y a un problème. On se doit collectivement de trouver la solution et de prendre les décisions qui conviennent. Donc depuis 2008, la surmortalité du naissin et des huîtres juvéniles, provoquant une baisse de plus de 40% de production du tonnage français, frappe en plein cœur la profession. Tour à tour, les établissements ostréicoles mettent la clé sous la porte. Le coupable s'appelle le virus de l'herpès de l'huître, qui est inoffensif pour l'homme. Il est important de rassurer à ce sujet, mais dont la virulence a subitement augmenté. On met en cause une nouvelle souche du virus, la dégradation de l'écosystème ou la fragilisation des populations d'huîtres liées aux conditions d'élevage intensifs, à des pertes de richesses génétiques ou encore aux manipulations que certaines ont subies. À cela se rajoute la chute des cours de l'élevage et des cours à l'expédition, soumis au diktat de la grande distribution aussi dans ce domaine. Car il faut savoir que depuis deux décennies, l'huître a pris le virage de la production intensive. une grande partie de la production actuelle, quasiment une huître sur deux maintenant, est issue de laboratoires, les huîtres nées en écloserie. Des larves d'huîtres y sont rendues stériles dans le but d'accélérer leur croissance et de commercialiser des huîtres en toute saison. Il s'agit essentiellement d'huîtres triploïdes, qu'on appelle triploïdes, variétés développées et brevetées par l'Ifremer. La généralisation de ces mollusques, appauvris par la sélection et par la quantité limitée des géniteurs, pourrait jouer un rôle non négligeable dans l'affaiblissement du patrimoine génétique des huîtres et leur résistance aux bactéries et virus. Leur production rend en outre la profession fortement dépendante des écloseries. À l'image des agriculteurs, on trouve certaines similitudes par rapport aux semenciers. Nous sommes là aujourd'hui donc pour relayer le combat de celles et ceux qui tentent de sauver leur entreprise artisanale en respectant les modes de production traditionnels à partir d'huîtres nées en mer. Au-delà de la concurrence déloyale qu'ils subissent en raison de la commercialisation plus rapide des huîtres triploïdes, on doit rappeler que pour mener une huître adulte en traditionnel, c'est une moyenne de 3 ans, alors que pour les triploïdes, qui n'ont pas besoin d'énergie pour se reproduire parce qu'elles sont censées être stériles, c'est 2 ans. Et en plus, comme elles ne sont pas laiteuses, elles peuvent être commercialisées l'été. Donc il y a forcément une concurrence déloyale. L'huître traditionnelle n'est pas reconnue en l'état actuel. Et les risques aussi de contamination du milieu naturel en quelques générations est préoccupant pour nous, car ces huîtres ayant subi une forme de manipulation, ce n'est pas un OGM, on le sait et on l'affirme, mais elle a quand même subi une manipulation qui peut faire en sorte que le patrimoine génétique soit fort atténué. Donc nous sommes là aussi pour que le consommateur ait le droit de choisir entre une huître d'écloserie et une huître née en mer. Alors pour mémoire, je vous rappellerai la loi de consommation sur laquelle on a débattu dans l'intérêt et de l'économie, mais aussi des consommateurs qui doivent guider par leur choix ce qu'est la production. J'avais introduit un amendement visant à l'étiquetage de l'huître, et je me souviens, c'était entre minuit, on me le rappelle souvent, entre minuit et 1h15 le matin, on avait passé 3/4 d'heure, c'est la première fois où le sujet était introduit dans cette maison, à débattre sur le sujet. Sans succès pour le moment, mais on sait qu'il y a un problème, donc on va devoir avancer. Donc aujourd'hui, aucun étiquetage ne permet cette distinction. Et voilà. Donc à l'heure où le consommateur est de plus en plus exigeant, cette question est totalement inconnue du grand public et il y a, on doit le dire, une omerta sur le sujet. Donc il importe, il y a un souci. Et il y a un souci pour la profession en général, pour le produit en général, mais pour le milieu en général également, il y a un vrai problème. Eh bien, je crois qu'à livre ouvert, lorsqu'il y a un problème, il ne s'agit pas de se fermer les yeux dans le court-termisme, mais il s'agit aussi de trouver collectivement les réponses qui conviennent. La survie des professionnels que vous allez entendre aujourd'hui dépend de cet étiquetage. Je souhaite les accompagner dans leur combat pour une plus grande transparence et traçabilité sur l'origine et le mode de production des huîtres, et n'exclut pas de déposer une proposition de loi sur ce sujet, mais c'est encore trop tôt. Parce que le 10 juin, c'est une date à retenir. On va organiser ici, parce qu'on a aussi la possibilité d'organisation de colloques. Et moi, chaque année, je me fais un devoir et un plaisir d'organiser un colloque. Il y a 2 ans, parce que je suis encore jeune sénateur, c'était sur l'agroécologie, avant la loi d'avenir agricole. L'année dernière, c'était sur l'abeille et la problématique de santé des abeilles en lien à des pesticides redoutables qui s'appellent néonicotinoïdes, que j'ai traduit ce colloque par la déposition d'une résolution européenne qui sera débattue mercredi soir de la semaine prochaine. Voilà, donc ces colloques, on invite et les représentants de la profession et l'ensemble de la profession, les représentants, à s'exprimer. Les scientifiques, des scientifiques étrangers également, de telle sorte que véritablement il y ait une réflexion collective et que nous, sénatrices et sénateurs, eh bien, on ait des éléments pour jouer véritablement notre rôle. Voilà, je passe la parole maintenant à Benoît Zoubiou et aux professionnels qui sont ici.
Merci. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Sénateur Joël Labbé pour son engagement en faveur de l'association Ostréiculteurs Traditionnels et pour le débat qu'il porte au sein de l'hémicycle sur l'étiquetage des huîtres. Je voudrais aussi remercier les sénatrices et sénateurs qui ont parrainé cette action. Enfin, merci à tous qui avaient répondu présents à notre invitation. Pour répondre à vos questions, des membres de l'association m'ont accompagné, ainsi que des représentants du réseau Cohérence. Donc, je vais commencer par ma droite. On a Angélique Ayerman, qui est ostréicultrice à Arcachon. Yvonique Gégas, ostréiculteur à Aradon. Jean-Noël Yvon, ostréiculteur Rivière d'Étel. Julien Pandaven, qui est directeur du réseau Cohérence. Christian Doloncan, ostréiculteur à Saint-Vaast-la-Hougue. Pardon. On a aussi, qui est assis là, Yannick Stéphan, qui est responsable juridique de l'association, qui est retraité ostréiculteur. Voilà. Alors, notre association s'est fondée en 2007. Elle rassemble des ostréiculteurs des sept bassins français, produisant et commercialisant uniquement des huîtres nées en mer, dans le but de les valoriser, de les défendre et de les sauvegarder. Notre objectif premier est d'obtenir un étiquetage clair pour les huîtres d'origine naturelle et les huîtres d'origine artificielle. Je vais passer maintenant la parole à Angélica, qui va nous expliquer l'ostréiculture traditionnelle dans le bassin d'Arcachon.
Voilà, bonjour à tout le monde. Nous sommes donc venus pour faire ce déplacement au Sénat, trois ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, pour représenter notre centre ostricole au sein de l'association ostréiculteurs traditionnels. Alors, le bassin d'Arcachon représente aujourd'hui 315 entreprises et nous produisons environ 7-8 000 tonnes par an. Mais le bassin est surtout connu pour la production du naissin d'huîtres. Pourquoi ça? Mais tout simplement parce qu'on a les conditions favorables pour une reproduction naturelle dans le milieu même. Avec Marais-Oléron, nous sommes donc les deux sites majeurs pour cette production naturelle de naissin. Nous sommes donc la première nurserie naturelle d'Europe. Et pour ça, il faut absolument qu'on soit préservé et protégé. Donc, déjà en 2010, quand on a commencé de faire des assemblées générales décentralisées dans les différents centres, on avait donc fait une assemblée générale sur le bassin d'Arcachon, et l'association ostréiculteurs traditionnels avait demandé un moratoire pour l'utilisation des triploïdes dans les bassins naisseurs. Bassin naisseur, c'est une zone de reproduction naturelle. Et donc, on avait demandé ça au moins pendant 3 ans. Mais malheureusement, depuis, rien n'a été fait. Donc, ces bassins naisseurs, Marais-Oléron et Arcachon, on a absolument besoin d'être préservés pour conserver notre patrimoine génétique. Toutes les souches naturelles qu'on a dans nos bassins, il faut les préserver devant des agressions extérieures. Alors, les agressions extérieures, c'est entre autres les écloseries. Parce que la mise en culture d'une huître d'écloserie est une menace pour notre environnement, est une menace pour l'intérêt général de toute notre filière ostricole, pour son avenir. Ces écloseries, aujourd'hui, n'ont aucun encadrement, aucun contrôle sanitaire. Donc, virus, antibiotiques, parasites, gamètes, larves, tout peut être rejeté dans le milieu, peut se répandre dans le milieu et après peut contaminer notre milieu naturel. Voilà. Alors, deuxième chose, évidemment, c'est notre huître qui est née en mer, elle est 100% naturelle. Tandis que l'huître triploïde, soi-disant stérile, n'est pas 100% stérile. Il y a un collègue qui va en parler après plus en détail. Donc ça représente encore une menace, un risque pour notre milieu, parce que ça peut stériliser progressivement notre milieu naturel. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on sera dépendant entièrement des écloseries, comme ça s'est passé en agriculture avec les semenciers. Voilà. Actuellement, nous avons la chance encore de travailler avec un produit 100% naturel. C'est un produit qui est non transformé, qui à aucun moment on rajoute des substances artificielles. C'est un produit, un des derniers produits 100% naturels que le consommateur peut trouver sur le marché. Donc il faut absolument préserver cela. Alors, comment faire? Il faut donner une chance aux consommateurs, pour qu'ils soient un consommateur responsable. Il faut donner le droit aux consommateurs de choisir entre une huître née en mer et une huître née en étoserie. Et pour ça, il faut absolument que l'étiquetage soit obligatoire. Alors, nous, on a absolument besoin du soutien des consommateurs, pour qu'ils nous soutiennent dans notre combat pour une survie de notre ostréiculture traditionnelle contre une ostréiculture artificielle qui a perdu tout lien avec l'environnement. Voilà, merci.
Merci Angelica. Alors les scientifiques ont un rôle important aussi pour la pérennité de notre profession. Donc là je vais passer la parole à Christian qui va nous parler d'un laboratoire en Normandie.
Oui, alors moi je vais témoigner sur le fait que Christian Deloncan, ostréiculteur dans la Manche, sur le fait que, en fait, l'utriploïde, donc c'est une biotechnologie qui a été inventée par Yves Fromer et qui ont revendu le procédé à des écloseries privées, dont on ne sait rien de ce qui se passe à l'intérieur. Donc la problématique qui se pose à ça, c'est de savoir quels sont derrière les moyens de contrôle, est-ce qu'on sait ce qui se passe, comment elles sont produites, et derrière les tenants et les aboutissants des productions qui découlent de ces écloseries, et effectivement l'impact sur le milieu et tout ça. Et donc en Normandie, il y a 4-5 ans, je ne sais plus exactement quand, on a créé le CRH, le Centre de référence de l'huître, en partenariat avec plusieurs laboratoires indépendants, et dont j'ai eu au téléphone la semaine dernière un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'Incombe, Franck d'Incombe à Caen, Madame Houssin qui s'occupe du dossier. Et tout d'un coup, on a des révélations comme quoi ils ont pris sur 13 lots qu'ils ont pris cet été en utriploïde, apparemment une moyenne de 50% des huîtres ne seraient pas stériles. Voilà. Donc 15 ans après la mise en culture de ces huîtres, on avait une espèce d'omerta sur savoir comment ça se passait. Alors déjà, on vient d'apprendre aussi qu'il y a des antibiotiques au sein des écloseries. Alors c'est pareil, c'était aussi non dit. Et là, tout d'un coup, on apprend qu'elles se reproduisent. Donc effectivement, ça pose des grosses problématiques sur le fait de savoir quelle information on a, qu'est-ce qu'on en fait. Et nous, comment, si on veut continuer à travailler sur un produit, moi c'est pour ça que j'adhère aussi à l'ostréiculture traditionnelle, parce qu'on est sur un produit au palais des abeilles, c'est les deux produits où ce qui reste entièrement naturel, où on est entièrement dépendant du milieu. Et donc il y a une saisonnalité qui est, moi je trouve très intéressante, que ce soit gustativement et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces utriploïdes? Est-ce que donc elles servent effectivement à produire de plus en plus? Et donc, du coup, pour se sortir de ça, moi, je pense aussi qu'il faut rentrer à l'étiquetage. On a une demande de plus en plus forte, mais les gens comprennent pas bien. Donc, je pense qu'il faut lancer un message clair pour dire parce que les gens sont intéressés, qu'on leur explique qu'il y a des saisons et que l'été elles sont laiteuses. Il y en a qui les aiment laiteuses. Il y en a qui les aiment non laiteuses, et il y a des saisons, il y a des terroirs, il y a des gens qui les travaillent, et à partir de ça, on arrive à faire des très beaux produits. Donc aujourd'hui, le côté des écloseries a amené un déséquilibre dans la profession. Voilà. Donc on insiste effectivement, c'est pour ça qu'on est là, demander au moins un étiquetage, ce serait la base pour que, en tant que consommateur, aujourd'hui, on n'a pas le droit de mettre 8 naturels, alors que dans la profession, tout le monde cite 8 naturels ou 8 d'écloserie, mais nous, sur un marché, on n'a pas le droit de mettre 8 naturels. Donc il va falloir créer un étiquetage que les consommateurs puissent avoir une lisibilité sur comment elle est produite. Et voilà. Voilà.
Bon, merci Christian. Donc on va aborder un autre chapitre parce que notre combat est soutenu aussi par une association, donc le réseau Cohérence. Donc là, je vais passer la parole à son directeur, Julien.
Merci à vous de nous donner la parole. Le réseau Cohérence est un réseau d'une centaine d'associations. On est basé sur la Bretagne, on travaille sur le développement durable et solidaire. On est une alliance entre des consommateurs, des agriculteurs, des défenseurs de l'environnement et bien évidemment des ostréiculteurs. Ensemble, on œuvre pour promouvoir des modes de production et de consommation qui s'inscrivent dans cette logique du développement durable. Le témoignage des ostréiculteurs, les études démontrent que l'écosystème marin est bouleversé, un taux de mortalité très important. Or, on sait qu'un écosystème est fragile quand la biodiversité diminue. Plus la biodiversité est importante, plus l'écosystème est robuste. Et c'est assez naturellement, vous comprendrez, qu'une espèce, quand elle est locale, elle est adaptée à son terroir, à son environnement. Évidemment, elle va pouvoir résister à des agressions extérieures ou à une adaptation du milieu. Or là, avec les huîtres triploïdes, on va chercher un individu exogène, on va le mettre dans un milieu pour lequel il n'est pas adapté, et puis on va importer toujours le même individu, la même population, on appauvrit de manière générale la biodiversité, et c'est à ce titre-là qu'on est en train de perturber, vous m'excuserez, l'écosystème, et nous faisons partie de cet écosystème. Donc on ne peut pas jouer aux apprentis sorciers, la nature est bien faite, il faut l'accompagner, il faut valoriser ses terroirs, ses savoir-faire. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'ostréiculture, c'est évidemment l'affaire de tous. Ça ne peut pas être simplement réservé à des professionnels, à des chercheurs. Nous, consommateurs, nous sommes aussi concernés. Nous sommes ce que nous mangeons. Nous avons le droit de savoir ce qu'il y a dans notre assiette. C'est un droit inaliénable. Et donc, à ce titre, en tant que représentant de la société civile régionale, nous soutenons la revendication des ostréiculteurs, des professionnels, de demander l'étiquetage sur leurs produits, les huîtres naturelles, mais aussi l'étiquetage sur les huîtres triploïdes, pour le bien commun, tout simplement. Je vais passer la parole à Jean-Noël Yvon, maintenant, qui est ostréiculteur en riad Etel, qui est un voisin.
Voilà, bonjour. Donc nous, dans la riad Etel, nous avons démarré en 1994 un programme de bassin versant littoral, quelque chose qui était assez novateur à l'époque, un programme qui est parti de la base, donc d'ostriculteurs et d'agriculteurs, dans un but bien précis, la défense de la qualité de l'eau. Un ostriculteur peut vivre s'il peut vendre ses huîtres. Pour vendre ses huîtres, il faut qu'il y ait une qualité d'eau qui soit correcte. Le fait que cette démarche soit partie de la base a amené forcément toutes les instances locales à s'inquiéter de notre problématique, et les collectivités donc se sont aussi impliquées autour des réseaux d'assainissement, donc toujours dans le suivi de la qualité de l'eau. Nous avons rencontré en fait dans la suite de cette démarche le réseau Cohérence, parce que nous avons cherché à mettre en place une charte de qualité autour des huîtres nées en mer, avec des bases de développement durable, et en allant un petit peu plus loin que ce qui est demandé dans les règles sanitaires, c'est-à-dire aller vers des pratiques environnementales un peu plus propres dans les entreprises. Donc la démarche et la charte de qualité qu'on a montée avec le réseau Cohérence a été une déclinaison d'une charte de qualité que le réseau Cohérence avait déjà mise en place dans les Côtes d'Armor pour du porc bio élevé sur paille, ce qui était une gageure un peu à l'époque quand même. Toutes ces rencontres m'ont permis de rencontrer beaucoup, beaucoup d'agriculteurs de différents secteurs de production. Et ça m'a permis de me rendre compte que ce que m'ont toujours dit les anciens depuis que je fais ce métier est vérifiable tous les jours. On nous appelle les paysans de la mer, c'est les paysans de la terre. Et les anciens disaient toujours que les ostréiculteurs font avec 20 ou 25 ans de retard les mêmes bêtises que l'agriculture. On est parti vers une ostréiculture plus industrielle, avec des productions de masse, avec des productions qui sont concentrées dans des espaces réduits, en écloserie, à partir de très peu d'individus, on va produire des millions de naissins, alors que dans la nature, c'est des millions d'huîtres qui vont permettre, par brassage de gamètes, d'avoir des quantités de naissins naturels. À force d'aller vers cette industrialisation, on a, je pense, malheureusement affaibli certaines bases des huîtres, et c'est pour ça qu'on trouve maintenant, de temps en temps, dans nos élevages, des périodes de mortalité. dans la charte de qualité qu'on a mis en place avec le réseau Cohérence, on a d'office et d'emblée parlé de densité, dans la mesure où on est sur un risque de mortalité virale. Le problème de densité est extrêmement important. Maintenant, quand on est sur de l'élevage industriel, l'intérêt, c'est le profit. Donc le profit, c'est si je mets un peu plus et que ça passe, je vais gagner plus d'argent. On n'a pas assez de moyens de contrôle autour des densités. L'infection virale, donc, continue. On est toujours sur des problématiques de concentration de jeunes huîtres. Cette concentration de jeunes huîtres amène forcément à terme des produits qui sont brassés, mélangés, avec peu d'informations pour les consommateurs. Comme nous l'a très bien rappelé M. Labbé tout à l'heure, on a un travail qui est exigeant. Les ostréiculteurs traditionnels sont généralement et souvent des petites entreprises qui emploient un petit peu plus de personnel pour produire une tonne d'huîtres que les entreprises industrielles pour pouvoir se démarquer. S'il n'y a pas d'étiquetage, il va nous être très très difficile de répondre à l'ensemble des charges. Donc on trouve chacun individuellement des réponses économiques. Ça nous permet de vivre aujourd'hui, de prévoir un petit peu demain. Moi, ce que j'aimerais, c'est pas prévoir demain, c'est prévoir pour la génération d'après et d'avoir quelque chose à transmettre à la génération de mes enfants. Je suis un peu abasourdi de voir ce que ma génération d'ostréiculteurs a réussi à faire d'un métier aussi noble, et j'aimerais que quelque chose de plus propre soit transmis demain.
Benoît. Oui. Donc, on va passer maintenant à Yves qui va nous donner son point de vue de l'ostréiculteur.
Bonjour, Yves Jégat, ostréiculteur sur la commune d'Aradon, près de Vannes, dans le golfe du Morbihan. Amoureux de mon métier, du golfe du Morbihan, je rejoins Jean-Noël Yvon dans son discours. On a une concurrence déloyale par rapport aux producteurs d'huîtres triploïdes. Nous, avec nos huîtres naturelles, on met 3-4 ans pour faire une huître. On a des collègues qui font des huîtres entre 18 et 30 mois. Donc on a déjà cette concurrence déloyale, on a l'appauvrissement génétique d'une manière générale sur les huîtres avec les maladies et les mortalités sur les naissains, voire sur les huîtres vendables. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le manque de transparence pour le consommateur. Il y a une hypocrisie, une omerta dans la profession. C'est pour ça qu'on demande un affichage clair sur les huîtres nées en mer et les huîtres nées en écloserie, et ce qui m'inquiète, c'est, enfin je pense que vous avez des enfants, voire des petits-enfants, c'est quel monde on veut laisser aux générations futures. Moi j'ai deux enfants, je ne souhaite pas que mes enfants viennent me reprocher un jour d'avoir mal fait les choses dans mon métier. Je pense que les plus belles valeurs qu'on puisse leur laisser, ce sont des valeurs de respect de la nature, de travail, des choses comme ça. Donc je souhaite effectivement une traçabilité la plus claire possible sur ces huîtres-là.
Bien, merci beaucoup de cette prise de parole collective. J'avais évoqué la société civile, donc représentée par Juliane Pondavane, le réseau Cohérence, avec lequel, sur un certain nombre de sujets, on travaille ensemble. Donc, il y a le temps important maintenant de... Vous allez avoir la parole, des questions-réponses, mais au préalable, ma collègue, je vais donner la parole à ma collègue Marie-Hélène Deségaux.
Prennent un peu la même voie, ça a pris du temps. C'est plutôt, à mon avis, que le sort du Parlement, bras du volontaire, ça n'empêche pas que les... que même si on sort du bras du volontaire, le poids des parlementaires est extrêmement important, et vous pouvez, je pense, compter sur, sur nous, ou pas, je pour appuyer ça. Et enfin, je dis qu'on n'est pas dans un combat à la garde, avec ce point économique, un combat où c'est une petite minorité qui fait ça, ou ça va pas du tout. D'abord, il n'y a qu'à voir la production de l'État cette année, qui est extrêmement importante. Donc, on est dans une situation éminemment économique en plus, derrière, avec des petites entreprises qui sont couronnées de leur emploi, alors que vous êtes pas déplacé. Là, je travaille avec des boiseries, souvent, ça peut être en tout cas, des très grosses entreprises qui viennent modifier les conditions économiques. Donc, moi, j'appuie vraiment cette question. Et le président de la Commission des lois, parce que Philippe Bach était là aussi là en tant que président de la Commission des lois, m'a demandé de l'associer à cette prise de position. Voilà, nous avons
Merci.
Merci. Bien, maintenant, vous avez la parole pour questions-réponses aux personnes qui sont à la table, si vous le souhaitez.
Vous semblez incriminer exclusivement la triploïde pour les problèmes de virus, mais en fait, est-ce que dans les élevages traditionnels, moi, c'est un mot que je préfère à naturel, parce que naturel, c'est utilisé pour tout et pour n'importe quoi, et dans les élevages traditionnels, est-ce que vous avez des problèmes de virus aussi ou moins ?
Je veux bien répondre. On n'incrimine pas du tout la triploïde pour les histoires de virus. D'ailleurs, là, on est en procédure judiciaire contre Ifremer pour ces histoires de virus, d'ailleurs. Donc, il y a un rapport qui est sorti en avril 2014. Donc voilà, c'est pas du tout le problème de la triploïde, et plus sur l'affaiblissement génétique et l'affaiblissement du capital immunitaire.
D'accord, mais supprimer les triploïdes, vous ne supprimerez pas vos problèmes de virus. En 75, quand toutes les huîtres portugaises sont mortes, c'était pas...
On demande pas de supprimer la triploïde, on demande qu'il y ait une traçabilité et qu'il y ait une sanctuarisation des bassins naisseurs et qu'il y ait un étiquetage. Là, actuellement, il y a un flou total.
Mais la plupart des ostréiculteurs, ils ne font pas les deux.
Non. Bah, nous, déjà...
Nous, on s'engage à ne pas faire les deux.
Moi, j'en connais beaucoup qui font les
deux. Peut-être, oui, mais pour l'instant, nous, c'est l'association ostréiculteurs traditionnels ne représente que des ostréiculteurs.
Et qu'on mette traditionnel dessus, c'est ça que vous demandez, en fait. Sur celles qui sont nées en mer, qu'on mette traditionnel. Parce que nées en mer, pour un consommateur, c'est un peu, il va falloir lui faire un cours sur l'élevage des huîtres. Ça va être très compliqué à faire pénétrer. Tandis que traditionnel...
Après, le terme traditionnel est aussi vague, hein. Vous savez, par rapport à du GCCRF...
C'est celui qu'utilisent les producteurs d'échalotes. Vous avez vu, ils ont réglé leurs problèmes avec leur guerre contre les producteurs d'échalotes de semis. Bon, maintenant, on met l'échalote traditionnelle. C'est passé à Bruxelles et c'est passé partout. Et c'est pas une mauvaise idée si on informe un peu le consommateur.
Nous, on souhaiterait aussi que l'huître qui provient des closeries soit étiquetée. Qu'il n'y ait pas seulement l'huître qui est traditionnelle ou née en mer qui soit étiquetée. C'est pour nous, ouais, c'est aussi un peu plus de traçabilité.
Parce que ce travail, on l'a déjà fait en créant notre association, justement, on voulait distinguer des autres des ostréiculteurs qui faisaient de l'huître triploïde.
Pour la parole, Yannick.
C'était notre seule façon de le faire parce que l'étiquetage n'était pas possible. Donc on le redemande là.
Vous n'avez pas le droit pour l'instant de mettre huître traditionnelle.
Huître naturelle non plus.
Non plus.
Non, mais naturelle, je comprends parce que c'est. Ça veut dire que les autres ne sont pas naturels.
On met ostréiculteur traditionnel. Mais les écloseries,
ça, vous avez le
écloseries ne sont pas obligées d'étiqueter. Donc, il y a aussi, de ce fait, beaucoup d'ostréculteurs qui mélangent les deux huîtres, effectivement.
Oui.
Donc, s'il y avait un étiquetage, ça pourrait plus se faire.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait partir dans une bourse aux idées. Si le mot « né en mer » n'est pas suffisant, il va falloir qu'on trouve autre chose. Mais peut-être que vous pourrez nous aider.
Le fait de pouvoir étiqueter et distinguer, ça vous permet donc, si j'ai bien compris, aussi de mieux valoriser vos huîtres. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur du coût de production d'une huître traditionnelle par rapport à une triplo, vu que le cycle est plus long? Une idée, hein.
Une idée, ça va pas être très, c'est pas si simple que ça, mais parce que j'ai pas des chiffres. Il y a la durée d'élevage déjà qui diminue. Il faut savoir qu'une huître naturelle en élevage, c'est un minimum de 50 opérations étalées sur une période de 3 ans, donc d'opérations qui sont faites manuellement. Nos métiers sont gourmands de main-d'œuvre. Je n'ai pas les chiffres là, il faudrait qu'on pose la question à un centre de gestion agréé. Eux raisonnent en termes d'unité de main-d'œuvre. Et dans une entreprise qui va produire des huîtres d'écloserie, une unité de main-d'œuvre va produire quelque chose comme 30 à 35 tonnes à l'année. Et quand on est dans des circuits traditionnels, une unité de main-d'œuvre va avoir du mal à produire 20 tonnes. Voilà. Hein. On est à peu près dans ce type de proportion.
Oui, bonjour. J'avais trois questions. Tout d'abord, au niveau de la sanctuarisation, je ne vois pas comment vous allez mettre des barrières sous l'eau, des bouées, des ériger des murs. Par exemple, dans un bassin comme Arcachon, je ne vois pas comment on peut d'un côté faire la triploïde et de l'autre côté faire la naturelle. Deuxième question, il me semble que quelqu'un m'avait expliqué, notamment à Arcachon, qu'il y avait une façon de reconnaître l'huître dite naturelle de la triploïde. Je crois qu'elle est plus ovale ou moins ovale. On doit pouvoir, même si on est mal informé, faire la différence entre les deux huîtres. Et troisième question, je voulais savoir quelle était la réaction des grands chefs en gastronomie à votre démarche. Alors, excusez-moi, madame, mais je sais que Dupuche, par exemple, très 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 médiatique, ostréiculteur, fait de la triploïde, par exemple. Ouais, il fait les deux, Dupuche. Ouais, ça, il fait quand même une grosse majorité triploïde. Voilà, donc ces trois questions. Merci.
Voilà, par exemple, pour si on parle du bassin d'Arcachon, ben, ça me semble tout simple. Quand on parle de sanctuariser un lieu, c'est d'interdire la triplo, hein, tout simplement. Ah mais oui, sinon c'est pas possible. Le bassin est trop petit pour que ça puisse se faire. Hein, c'est impossible. Non. Cette année, nous pensons quand même, on n'a pas de confirmation, mais cette année, on a eu moins de mortalité que les années précédentes. Hein, cette année, sur notre essai, on a constaté à peu près 40% de mortalité au printemps, par rapport à 70, 80, c'est presque que la moitié. Donc on pense quand même notre huître naturelle devient plus résistante. Ce qui a été dit par les scientifiques, il fallait le temps, mais une résistance va se faire au fur et à mesure. Quoi. Donc on pense quand même ça. Après, il y a un autre problème qui c'est quand même qui existe depuis 2 ans. Il n'y a pas que les juvéniles qui meurent. Il y a les adultes qui meurent. Et là, c'est vraiment une grande majorité des huîtres triploïdes.
Non, mais c'est vraiment lié beaucoup aux triploïdes, ça faut savoir. C'est-à-dire que depuis 2 ans, c'est un autre problème, c'est une bactérie, et qui vient surtout créer la mortalité sur des huîtres triploïdes. Voilà, majoritairement. Donc ça, c'est pas trop dit. Mais, et donc, effectivement, depuis, on a eu une émission France 5 qui est passée il y a 15 jours, on a eu la révélation qu'ils mettaient des antibiotiques. Donc, depuis 15 ans qu'il existe des écloseries, nous, on ne savait pas. Nous, producteurs, on ne savait pas. On posait la question et on nous certifiait que non. Voilà. Donc là, quelqu'un.
Oui.
La mortalité non, sur les grosses huîtres, moi, on n'a pas de mortalité, on a les mêmes que d'habitude, 5-10%. Et là, il y a des lots qui vont jusqu'à 50-80% de mortalité sur les grosses de triploïdes.
Je ne pense pas que cette huître, la bactérie attaque plus les triploïdes. C'est tout simplement, huître triploïde, elle est plus fragile. Hein. Elle est fragilisée par sa sélection. Elle est sélectionnée pour avoir une croissance très très rapide. Donc ça donne des fragilités de l'autre côté. Non.
Vas-y. Ouais, mais la forme, on voit de moins en moins.
Yannick, vas-y, dis.
Au contraire, c'est une.
C'est pour ça que l'association Huit Mer en Mer, si vous voulez avoir une certitude, la meilleure des solutions, c'est de poser la question est-ce que c'est Huit Mer en Mer ? Et là, le rebondeur vous demandera si le
Merci.
Non.
Alors, juste, là, on a abordé une réponse qui touche aux scientifiques. Alors, je vous ramène au 10 juin, justement. Et là, en toute ouverture et toute transparence, ces choses-là seront dites. Maintenant, pour l'organisation, je souhaiterais, lorsque vous prenez la parole, que vous vous présentiez, que l'on sache qui est qui, pour que l'on sache simplement qui on... Ok, non, c'est pas du tout un reproche, mais pour... Ok. Ouais.
Pour lui
sure.
Bah, il y a une omerta aussi sur le produit. Hein. Ah, oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas informées.
Et puis c'est aussi on va dire, beaucoup pour l'instant, c'est un souci aussi de producteur, quoi. C'est-à-dire que ça pose beaucoup de problèmes. Mais oui, mais vu que l'information est floue, effectivement, quand on va donner les informations, moi j'ai essayé, à titre personnel, de clarifier les choses avec mes clients, j'ai essayé de faire quelque chose de très symbolique et tout, mais c'est très très compliqué, le message est compliqué à faire passer. En goût, on ne peut pas dire, voilà, l'huile triploïde, vous n'allez pas toujours, des fois elle va être bonne aussi. Et du coup, c'est aussi une question d'éthique. On est là aussi pour une... Ben, c'est-à-dire qu'il y a une différence qui est déjà notable, c'est-à-dire qu'il y a déjà une différence notable, c'est que quand on fait de l'huître naturelle, elle suit les saisons. Moi, c'est ce qui me tient vachement à cœur. Voilà, je fais de l'huître, c'est pour... Et donc, du coup, il va y avoir des saisons, il va y avoir l'hiver, il va y avoir le printemps, il va y avoir l'été, et il va y avoir des évolutions de goût en fonction de chaque terroir. Et ça, c'est ce qui rend le produit vivant et très intéressant.
On a un
Bon. Oui.
Oui.
Alors.
Oui, oui.
Ostréiculteur
traditionnel.
Ostréiculteur traditionnel.
On reprend l'aspect question-réponse, s'il vous plaît, monsieur.
Si j'ai bien compris, je vais me présenter parce que ça me paraît essentiel. François René, je suis élu par les États membres de cette commission, donc le Conseil général des pêches en Méditerranée et mer Noire. Et à ce titre, je suis le président du comité de l'aquaculture. Donc je parle à titre de la Méditerranée et de la mer Noire. La première des questions, c'est, je vois beaucoup de gens de l'Atlantique, j'espère que vous portez aussi nos Méditerranéens. La question est là, parce que je n'en vois pas. J'espère que nos sénateurs nous portent aussi. L'ostréiculture en Méditerranée française, ça compte. Voilà, je me permets de le dire. Le deuxième, c'est que nous sommes dans une globalisation, mondialisation, qui amène que des pays tiers, l'Italie, l'Espagne, qui produisent aussi des moules et des huîtres, sont partie prenante et on a donc des échanges avec eux. Et il est important que cette chose ne soit pas trop centrée sur l'Atlantique. Nous sommes globalement l'Europe, voire les pays du Sud. On a parlé des Marocains. Ça fait partie des choses qui sont importantes. Le deuxième élément, et ça c'est plus mon analyse, c'est que nous sommes, en tant que travailleurs côtiers, et impactés par la littoralisation de nos populations. Et ça, c'est globalement, c'est une tendance. Je ne sais pas ce qui est le cas de vos différents bassins, le bassin d'Arcachon, c'est évident. On subit la gestion, pas forcément excellente, des exutoires côtiers. La population monte, les rejets montent, le traitement est là, mais... Nous sommes structurellement impactés, d'autant plus que l'huître, on ne lui amène pas la nourriture, elle vit avec la nourriture qu'on lui donne. Vous savez que c'est les arrivées d'eau, c'est les arrivées des bassins côtiers, et là aussi, on est impacté par le développement même de nos sociétés et la littoralisation. Le deuxième point, c'est effectivement, on parle de naturel, mais enfin, il ne faut pas oublier que le stock génétique de nos huîtres, il vient du Japon. Nous sommes tous sur des huîtres japonaises. Et donc, la limite du natura, elle est liée à l'homme. Nous avons transloqué ces populations. Et puis, ça n'est pas la première fois. L'Ostrea edulis, la toute première, a disparu par une pathologie. La deuxième a disparu aussi par une pathologie, l'huître. Donc, la question de la vitesse de croissance qui est posée en Méditerranée, c'est est-ce que nos bassins ne sont pas surchargés? Est-ce que la capacité trophique de nourrir n'est pas là? Alors, je prends l'exemple de les deltas de l'Èbre. Les Espagnols développent des huîtres. La vitesse de croissance est le double de l'étendue. Pourquoi? Probablement parce qu'il y a moins de charges. Et si je regarde l'étendue, on a une vitesse de croissance le double de Marin-Oléron. Pourquoi? Ben, probablement parce que on a à la fois, c'est pas le même milieu, mais regardons dans l'œil la poutre qui est dans le nôtre plutôt que de regarder la paille chez le voisin, parce qu'il y a effectivement des choses qu'on ne gère peut-être pas très bien, notamment la surcharge, et ça c'est de la gestion collective, monsieur le sénateur. Comment peut-on arriver à gérer collectivement un bassin? Vous faites de la gestion collective, mais ça me paraît important. Moi, en tant que président, c'est ce que je me tue à dire. Et deuxièmement, nous sommes dans un ensemble euro-méditerranéen dans lequel nous n'échapperons pas à la traversée des frontières. Et ça, c'est important. Bon,
je voudrais qu'on vienne à la formule question-réponse, parce que vous avez fait les questions et les réponses. Mais merci. Alors, par contre, ce type d'échange au niveau du collège sera intéressant, évidemment, parce que le côté relocalisation, la question des circuits courts, au sens assez large du terme quand même, mais pas mondial, voire européen, quel intérêt nous on aura ici à consommer des huîtres qui seront produites au Maroc ou en Italie? Voilà, ça aussi c'est une vraie question sur l'ensemble des produits alimentaires d'ailleurs.
Je voudrais quand même préciser que le Strea edulis n'a pas disparu. Ce sont des huîtres qui ont été attaquées par deux maladies différentes qui s'appellent Bonamère et Martellia en 72 et 74. Elles sont effectivement présentes au dixième de la production 1970 en Bretagne. Depuis quelques années, sur notre secteur, on a constaté, au bout de 40-45 ans, un taux de survie des huîtres entre 2 et 3 ans qui était multiplié par 15. Bon, quand on part d'une production de 0,0 quelque chose, il est évident que multiplié par 15, ça n'arrive toujours pas à grand-chose, mais il a fallu 40-45 ans peut-être pour que la nature permettent à ces huîtres de s'adapter. Et moi, j'ai bon espoir qu'un jour, quelque chose puisse ressortir à ce sujet-là. Ce que je voudrais ajouter aussi, suite aux différentes interventions, c'est que nous tous ici, nous avons fait des essais de production d'huîtres à partir d'huîtres provenant de bancs naturels, de pêche à pied. Il y a des gens dans ces métiers qui ont des licences, qui vont pêcher des huîtres comme ça. Et je peux vous certifier que depuis 2 ans, sur ces huîtres-là, moi j'ai 0 mortalité en juvénile, 0 mortalité en adulte. Par contre, ce sont des huîtres qui demandent énormément de travail, parce que sur une huître de 2 ans, vous avez une huître d'un an, et puis vous avez encore un petit naissin par-dessus. Donc quand vous allez mettre les huîtres une à une, vous allez les semer sur les parcs, vous allez relever ça quelques mois plus tard, et il va y avoir encore des petites huîtres à décoller. Ça demande énormément de main-d'œuvre. Par contre, sur ces huîtres-là, 0 mortalité. Moi, ça fait 2 ans que je ne fais plus du tout de déclaration de mortalité. Je ne cours pas après les subventions pour faire vivre mon entreprise. Et il y a donc des solutions qui existent. Ça veut dire que sur ces bancs naturels, on sait qu'il y a la présence du virus, mais les huîtres tiennent quand même. C'est peut-être ces zones-là qu'il faudrait sanctuariser pour pouvoir préserver des souches qui, elles, tiennent.
Vous posez toujours une question.
Pardon. Marion Laronde-Larrette, je suis journaliste à Culture Marine. Je voulais savoir si vous connaissiez la proportion d'huîtres nées en mer au niveau de la commercialisation et d'huîtres issues des closeries.
Normalement, on devrait avoir les chiffres avec Ifremer ou avec nos instances dirigeantes. C'est toujours très difficile. On parle de 40%, 50%. Ouais. C'est reste vague.
Les chiffres, ça n'a jamais été vraiment le fort des ostréiculteurs, malheureusement. Ça, c'est des choses, effectivement, qu'on ne sait pas trop. On est à peu près persuadé que c'est au moins moitié-moitié. On ne sait pas s'il n'y a pas plus d'écloserie que de naturel. Franchement, on ne sait pas trop vous répondre à ça.
Bruno Vaudot, journaliste à Infomer. Concernant votre volonté d'avoir un signe officiel, est-ce que vous pensez plutôt au logo bio ou à d'autres signes officiels? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Qui me répond ça? Alors, parce que le logo bio, c'est pas très très simple pour les huîtres, parce que si on suit les définitions européennes, il faut pouvoir aller en traçabilité jusqu'au père et à la mère. Donc dans ces cas-là, des huîtres bio, c'est exclusivement des huîtres d'écloserie.
Excusez-moi, Jean-Noël, si... ouais. Oui. Mais le label bio existe déjà. Hein. Donc le label bio existe déjà. Il y a déjà un cahier des charges qui est sorti. De préférence une huître d'écloserie et d'écloserie bio. Ça veut dire qu'actuellement nous avons des écloseries qui ne sont pas bio. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Après, au niveau des labels, comme je vous disais tout à l'heure, nous on préférait que les deux huîtres soient étiquetées. Qu'il n'y ait pas seulement l'obligation à ceux qui font, on va dire, normalement les choses ou traditionnellement les choses, qu'ils soient obligés de mettre un label et de payer des centres de certification. C'est pour ça qu'on demande, comme pour les poissons, poissons d'élevage, poissons sauvages, qu'il y ait huîtres nées en mer, huîtres nées en écloserie.
Le problème des huîtres bio, elles viennent d'écloserie, elles subissent le choc chimique à l'état larvaire et ils rajoutent des antibiotiques dans les écloseries. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai du mal à mettre cette étiquette bio sur cette huître. Je considère qu'on... Comment ?
Oui.
Expliquez-moi comment elles sont faites, je vous dirai si l'appellation est bien ou pas.
Et après, il faut peut-être discuter sur le cahier des charges, parce que apparemment, le cahier des charges des huîtres bio n'a pas vraiment été discuté en France. Donc, moi, j'ai essayé de suivre l'arrivée de ce cahier des charges. J'étais en relation avec des personnes qui discutaient des cahiers des charges au niveau de la France, et ils ne l'ont pas vu arriver. Voilà.
Est-ce que les huîtres label rouge sont triploïdes ou pas?
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Label rouge, pardon. C'est deux choses différentes. Hein. C'est un label rouge, c'est un critère qui vient que de Charente, hein, si vous m'arrêtez. Et qui vient d'éclair, et du coup, qui peut être ou naturel ou triploïde. Ça n'a rien à voir avec l'origine du.
Non, on est mal parti. J'allais dire à madame qu'elle avait droit une fois de poser une question sans demander la parole. Mais ça, vous avez joué votre jeu. Par contre, vous n'êtes toujours pas présenté. Merci. Monsieur a demandé.
Oui, bonjour, Frédéric Arpital du magazine, ça m'intéresse. Votre mouvement, je le connais depuis quelques années, et vous avez conclu en disant que c'était aux consommateurs, en fait, de faire en sorte qu'ils puissent émerger et s'installer. Or, dans ce que vous avez dit aujourd'hui, je n'ai pas entendu de choses qui concernent directement le consommateur, enfin celui d'aujourd'hui. Vous avez parlé de votre situation économique, de la baisse de la biodiversité, des risques potentiels pour les générations à venir, que ce soit celle des agriculteurs ou celle des consommateurs. Mais pour le consommateur d'aujourd'hui, si moi j'avais un message lui faire passer, je ne l'ai pas entendu.
Le choix déjà entre une huître, c'est-à-dire naturelle et une huître modifiée génétiquement, il y a une omerta sur... sur la présentation de nos huîtres, je trouve qu'il y a une hypocrisie vis-à-vis du consommateur.
Le consommateur, qu'est-ce qu'il veut quand il consomme? On fait un acte citoyen quand on consomme. Et qu'est-ce qu'on veut faire profiter? C'est-à-dire que si on veut faire profiter effectivement une huître industrielle avec des transferts, si vous parliez des autres bassins, je ne connais pas le sud, mais l'Irlande qui commence à produire, quand vous mangez des huîtres un peu partout, des fois maintenant ça commence à venir d'Irlande, d'Écosse. Donc forcément, ça fait le schéma à laboratoire, Irlande, et puis ça revient. On rentre dans des gros schémas industriels de l'huître. Nous, si on est là, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que c'est aussi pour l'éthique de dire on veut maintenir des petites unités de production. On est tous à 2, 3, 4 employés, on sort 40 tonnes, 50 tonnes. Et si on veut être dans ce schéma, il faut qu'on valorise, il faut qu'on ait les consommateurs qui veulent adhérer et manger cette huître aussi naturelle, qui n'a pas subi d'antibio aussi, c'est quand même un critère, ça. Et donc du coup c'est ça en fait, quelle entreprise ostréicole vous voulez demain, et donc nous il faut qu'on fasse la différence, et il y a des consommateurs qui le demandent, hein. Enfin, moi je sais que quand on en parle, quand on arrive à expliquer le truc, voilà,
quand on arrive à expliquer, je pense quand même le consommateur, ouais. Bah, oui. Le consommateur aujourd'hui il est très sensible à cette question, il veut savoir ce qu'il a dans son assiette, il veut savoir ce qu'il mange, il veut savoir si cette huître elle est née dans une écloserie avec des antibiotiques, etc. Je pense que ça l'intéresse, mais actuellement il ne sait pas forcément, quoi. C'est pour ça qu'il ne sait pas faire le choix. Donc il faut lui donner déjà. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui... Non, justement, c'est à vous de faire aussi passer le message d'une manière pour dire que actuellement, une huître naturelle n'est pas transformée. On rajoute jamais rien, on ne lui donne pas de la nourriture. Elle se nourrit du milieu. Si le milieu est riche, elle va être plus grasse. Si le milieu est pauvre, elle va être plus maigre. C'est pour ça que c'est un produit de saison aussi. Si vous mangez l'huître maintenant ou dans 3 mois, surtout à Arcachon, ça va être complètement différent. Donc c'est ça aussi qu'il faut expliquer aux consommateurs. Et aussi, il faut garder aussi des terroirs. Si vous mangez une huître d'Arcachon, une huître de Morbihan, etc., c'est chaque fois différent. Aujourd'hui, ça tend aussi une étiquette, il y a marqué huître de France. Non, nous, c'est une huître d'Arcachon, de Tzik, etc., de Thon. C'est important. Oui. Non, au départ, c'est une huître. Non, mais quand elle va être. Le naissin est vendu, le naissin a 7 mois, 8 mois. Donc après, elle a encore 3 ans pour se faire au terroir. Non, par contre, si vous amenez une huître qui a grossi en Normandie, vous l'amenez après, par exemple, à Arcachon, n'importe où, pendant un mois, elle devient l'huître d'Arcachon, c'est là où ça ne va pas.
Non, mais après, on peut toujours se poser la question de la frontière. On peut toujours se poser la question de la frontière. Mais nous, si on est là, je répète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quoi, 5-6 écloseries qui sont monumentales, qui annoncent des 1 milliard de larves, 2 milliards de larves, et ça part dans des sites de production, on maîtrise plus trop. Donc nous, si on n'avait pas créé cette association, c'est clair que demain, vous mangeriez une huître standardisée. Voilà. Si on défend ça et on défend les petites unités, demain, si la production sort, on a encore une chance, c'est que c'est la triploïde depuis 2 ans qui meurt. Alors, un autre, elle résiste. Alors là, c'est une chance. Heureusement que la nature est là, des fois, ouais, effectivement. Mais si demain, c'est pas le cas, ça veut dire que nous, c'est où le consommateur veut bien jouer le jeu d'avoir une huître. Moi, c'est pareil, j'adhérais, excuse-moi, je m'éloigne un peu, mais au secrétaire traditionnel, parce qu'un jour, on m'a reproché de vendre des huîtres laiteuses. Alors que j'arrive à une poissonnerie, on me dit, mais c'est quoi ton huître, elle est laiteuse? Ah, je dis, ouais, c'est les saisons, là, quand même. Alors là, c'est à moi de me justifier de faire un produit. Et donc, il y a un moment, si nous, on ne vient pas interpeller ça, c'est clair que demain, vous aurez un produit uniforme avec 5 écloseries qui produiront, voilà, on sera dans un schéma l'agriculture d'il y a 25 ans, voilà, on est d'accord.
Bon. Est-ce que... Attendez.
Pardon, il y a une question ici.
Je vais la poser sous forme de question. Comment vous situez-vous par rapport aux lois internationales, je parle des lois des Nations Unies, FAO ou de l'Union Européenne, en aquaculture aujourd'hui, et très largement, il est interdit de prélever sur milieu naturel pour élever. Alors je suis d'accord que c'est valable, ça c'est très important, c'est des lois qui sont reconnues, qui sont votées, notamment dans le domaine du poisson. Alors on n'est pas dans les 8, mais c'est important de voir que la tendance mondiale est de demander à l'aquaculteur de gérer lui-même et de produire son essaim, parce que c'est la loi. Et notamment, alors, beaucoup de gens ne le font pas, mais l'ostréiculture est un cas particulier. Et là, vous allez à contresens de la loi globale. Alors, c'est important de le voir, parce qu'il va falloir argumenter. Voilà, la question que je pose, c'est comment vous situez-vous par rapport à ces lois?
Nous, la grande différence avec l'aquaculture est qu'on a... Peut-être. Vous le dites. Mais on est dans le milieu ouvert, contrairement à l'aquaculture. Et c'est d'ailleurs le problème du label bio. On nous a considérés comme des aquaculteurs, c'est pour ça qu'on a demandé à ce que le naissin d'huître provienne des closeries. Alors que nous, on a un naissin d'huître qui a une sélection naturelle dans le milieu totalement ouvert. Après, on produit nos huîtres dans un milieu totalement ouvert. Donc, on n'a rien à voir avec l'aquaculture. On n'apporte pas de nourriture, on n'apporte pas de soins. Donc, je ne vois pas où est le parallèle.
L'aquaculture, c'est un objet
guéri. Oui. On est entre les deux. Ça, c'est... On est ostréiculteur.
Ouais. C'est pas du tout pour le contraire, c'est-à-dire voilà la tendance qui fait que les gens se rendent compte de ne pas prendre sur le milieu naturel et de respecter ce milieu, ce milieu de production naturelle. Ça, c'est une tendance générale.
C'est peut-être là notre problème, en fait. C'est peut-être là la source de notre problème, en fait. Vous venez d'expliquer pourquoi on est en train de privilégier les écloseries par rapport à notre façon de travailler.
Et pourquoi, par contre, dans ces cas-là, si tout le monde a le droit de faire son huître, si moi je peux acheter une tétraploïde, ce qui va être le cas peut-être l'année prochaine, il n'y a aucune restriction pour l'instant. Tout le monde peut être écloseur. Donc moi j'achète une tétraploïde, une huître à 4 chromosomes. Je fais mes reproductions chez moi. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire ici. C'est-à-dire qu'à un moment on va remettre ça dans le milieu naturel. Donc là, vous pouvez appeler le laboratoire d'Incombe, hein, m'a proposé, hein, pour les journalistes qui veulent appeler. Il s'avère qu'il y a 50% des triploïdes qui se reproduisent. Donc, il y a un moment, avec quelle méthode aussi on fait, voilà. Donc, nous, on vient mettre le haut là et dire, et mettre en garde de dire, d'accord, mais comment alors?
Vous pouvez vous appuyer sur un rapport publié en 2010 qui s'appelle le rapport Chevassu.
Oui, d'accord, ouais.
Mais ce sont des lois qui sont pas faites à ce moment-là, parce que je pense que les personnes qui ont fait les lois ne connaissaient pas complètement le sujet. Ils sont passés à côté de certaines personnes comme nous. La profession à 140 ans, qu'on nous exclut ou qu'on nous impose notre métier parce qu'une loi a été mal faite. Moi, j'ai du mal à changer ma façon de travailler, même si la loi m'interdit, vous voyez. Non, mais pour le poisson, je peux comprendre qu'on n'ait pas pêché des albins pour les élever dans des cages. Pour les huîtres, la base de l'ostréiculture, c'était le captage des larves d'huîtres dans la mer. C'est le début de l'ostréiculture, comment capter les larves pour pouvoir les élever. On vient de nous l'interdire maintenant, je changerai de métier avant de vendre mon âme au diable pour faire des huîtres déclosées.
Écoutez, juste une petite intervention. Il existe un rapport qui a été commandité par l'État, qui a été publié en 2010, qui s'appelle le rapport Chevassu, qui a été travaillé pour savoir si, oui ou non, il y avait péril en la demeure en matière de triploïdie dans les huîtres. Il est bien écrit en clair dans ce rapport que si quelques tétraploïdes sont disséminés sur un bassin naisseur, il faudra une période courte, entre 10 et 15 ans, pour arriver à une stérilisation totale de ce milieu. Et c'est à ce sujet-là qu'on est un petit peu inquiet. Quand on voit l'impact de la tempête Xynthia, par exemple en 2001, qui a complètement inondé plusieurs écloseries industrielles, donc avec le risque de dissémination de ces bestioles, on peut se permettre d'être inquiet. Et on se demande, à ce niveau-là, pourquoi est-ce que le principe de précaution n'est pas appliqué?
Oui, mais là, elle est en train de partir dans le mur en faisant des erreurs. Je tiens à vous le dire. Alors, avec les zombies, alors moi, je parle là en tant que parlementaire, certes minoritaire, nos ambitions sont fortes et lourdes, à savoir, parce qu'on vient nous dire la législation européenne, vous venez nous dire la législation mondiale, tout ça, il faut qu'on le fasse bouger et qu'on l'adapte à une planète durable. Paris COP 21, cette année, on doit poser des actes, j'en parlerai demain, sur les pesticides néonicotinoïdes, parce qu'on se retrouve sur les mêmes schémas. Est-ce qu'on veut avoir une agriculture et une culture de la mer qui soit productive et non productiviste? Toute la nuance est là. Et pour nourrir qui? Est-ce qu'on continue ce grand marché mondial déréglementé, ultra-libéralisé? C'est complètement suicidaire. À commencer par les pays les plus pauvres. Donc ça, c'est éthiquement inacceptable. Pour nous, c'est une question de responsabilité politique. Et c'est pas du tout le fait de fanfaronner ni quoi que ce soit. Mais chaque fois maintenant qu'on met le doigt sur un sujet comme celui-là, il y a l'Europe, mais il y a aussi l'aspect planétaire. Et tout ça, il va falloir le faire bouger. Et là, vous êtes bien placé pour avoir une certaine lucidité là-dessus. Et on comptera sur vous comme relais.
Oui, pardon. Juste une question, quelle est la nature du litige qui vous oppose à l'IFREMER que vous avez évoqué tout à l'heure?
Alors, ben, je te laisse en parler si tu veux.
Oui, donc Yannick Tesson, j'ai pris ma retraite au State École il y a un an et demi à peu près. Donc c'était, disons qu'on a demandé une expertise d'IFREMER parce qu'ils avaient développé des biotechnologies et sans en mesurer les conséquences, sans avoir fait d'essai ni rien. Donc voilà le départ de l'expertise. Donc il y a eu un expert qui a été nommé, qui est M. Puy, qui lui par la suite a travaillé sur le dossier. Il a demandé deux autres experts, un virologue et un expert comptable pour voir si nos pertes pouvaient être reconnues ou pas. Et donc, le rapport est sorti, je crois, au mois d'avril de 2014. Donc, l'expert a reconnu 5 fautes d'IFREMER. Donc, je peux vous les donner si vous voulez. Donc, il a reconnu une absence d'approche médicale et de diagnostic avant 2008, un défaut de surveillance, un défaut de conseil de prophylaxie sanitaire et un défaut d'information apportée à la profession ostéicole sur les risques et absence de proposition de mesures préventives. Et dernièrement, une absence de contrôle sanitaire de l'OSHV1, donc du virus, du naissin de triploïde dans les écloseries. Et donc, suite à ce rapport, on a déposé une requête devant le juge des référés très récemment, c'est-à-dire le 23 octobre 2014, pour demander réparation. Donc là, c'est en cours, on attend de voir les choses. Et par contre, c'est vrai que ce rapport survole la partie génétique trop rapidement. On a essayé d'intervenir là-dessus, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas trop le droit d'en parler. Donc, je me souviens d'une dernière réunion où j'avais demandé sur les tétraploïdes quelle était la diversité génétique et qu'est-ce qu'ils entendaient parce qu'ils avaient mis dans leur dernier brevet. On n'a pas pu en parler. Donc, je trouve que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on travaille toujours là-dessus et on verra suivant le résultat du juge des référés, on verra comment on continuera avec notre avocat, comment on avancera là par la suite. Parce que là, la direction, on la verra après. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau génétique, il y a encore beaucoup de choses à dire et à travailler et à éclaircir. Voilà. Ah ben, la date exacte, on ne la connaît pas. Dans l'année, là.
Normalement, c'est 6 mois.
Et là, donc, ça a été déposé, le 23 novembre, octobre, pardon, 2014.
Madame. Un point important, les écloseries appartiennent à qui? À des multinationales ou...
Ah ben, elles sont privées.
Des multinationales aussi.
Oui, mais on n'a pas le... Il y a des banques, apparemment, dans certaines...
Après, vous pouvez monter une écloserie si vous voulez, hein.
Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Si vous voulez faire une écloserie, vous pouvez le faire.
Oui, aujourd'hui, monter une écloserie, n'importe qui peut monter une écloserie. Par contre, pour être ostréiculteur, il faut un bac. Donc, ça peut être dangereux, quoi.
Il y a une question ici devant.
Dans un métier comme le vôtre, et il y a des choses qui sont assez aberrantes au niveau de la traçabilité, justement, qui est de rigueur dans tous les aliments et de plus en plus demandée. Comment se fait-il que n'importe quelle écloserie peut décider du jour au lendemain d'être écloseur, qu'il n'y ait pas de contrôle vétérinaire, qu'il n'y ait pas de contrôle à ce niveau-là, que ce soit une liberté totale? Vous parlez d'omerta, mais à quel niveau ça se passe? Le consommateur n'est pas informé, bien sûr. Mais au niveau scientifique, tout ce qui tourne autour des écloseries paraît vraiment très artisanal, c'est le cas de le dire, ou tout au moins secret. Donc à quel niveau ça se passe?
Normalement, les écloseries, au niveau des ATIS, le contrôle des écloseries avait été demandé, donc, mais c'est toujours pas mis en place, il n'y a pas de rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, lequel d'entre nous, embauche un chercheur quelconque pour faire trop de bêtises, il peut démarrer son écloserie demain matin et produire demain matin. Il suffit qu'il achète un émetteur des trapolis et des...
Et l'année prochaine, enfin, ou cette année, puisque le brevet d'IFREMER est maintenant le... Donc n'importe qui pourra produire des tétraploïdes.
C'est un débat aujourd'hui, on ne sait pas
où va arriver la tétraploïde. Et là, donc, c'est votre profession qui se bat, mais au niveau réglementation, etc., il n'y a rien à faire, rien à attendre. autant que l'étiquetage des huîtres naturelles nées en mer ou pas.
Et ensuite, donc, Ifremer a créé un nouveau brevet en 2007. Mmh. Et c'est ce brevet-là aujourd'hui que Ifremer connaissait.
Nous, on a besoin, on est clair là-dessus, on en parlait tout à l'heure, on a besoin des scientifiques. Oui, on n'est pas du tout sur un truc où on veut rejeter les scientifiques. On a besoin des scientifiques. Et le problème qu'on a, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que Ifremer a créé cette biotechnologie, il a revendu à des écloseurs et s'est associé avec les écloseurs. Donc après, il y a une espèce de connivence, forcément. Et sauf qu'aujourd'hui, Ifremer, dans ce rapport que j'ai lu, dit, il n'est pas notre sort. Nous, on ne nous a pas demandé d'aller vérifier ce qui se passait dans les écloseries. Alors qu'ils vendent la tétraploïde. Donc c'est un peu la problématique qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis 2008, on a parti par de fortes mentalités, mais on ne peut pas avoir confiance. C'est à la décharge d'Ifremer, ce n'est pas de leur faute. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont jugés partis par...
Ifremer a trois systèmes de rémunération, c'est ce qu'ils ont dit dans le rapport, vous trouvez. Ils ont le premier, système de rémunération, c'est la vente de tétraploïde à un écloseur entre 1 000 et 2 000 euros pièce en fonction des contrats qu'ils ont. Ensuite, ils ont un système où de bêtes, alors je ne sais plus chez les hommes, mais je crois que c'est 270 euros. Et ils ont aussi un système de rémunération sur le nombre de triptanoïdes vendus qu'ils ont réussi à commercialiser, parce que quelquefois ils ont des pertes énormes, donc ils ne commercialisent pas forcément. Et quand ils commercialisent, Ifremer se réserve le droit de choisir la meilleure rémunération, et la dernière, c'est de prendre 3% du chiffre d'affaires. Donc ce qui nous étonne aussi aujourd'hui, c'est qu'Ifremer est incapable de nous dire combien il y a de triptanoïdes dans le milieu, alors qu'elle a un système de rémunération basé sur le nombre de bêtes. C'est quand même inquiétant. Et après, une question, on ne connaît pas le cas.
Je vous propose, parce qu'il y a un moyen, oui. Moi je voudrais repartir à la transition énergétique, mais je vous propose 3-4 questions précises avant de clore.
Une dernière question avant de prendre le micro. La densité des poches et des tables de travail de l'huître dans différents endroits, elle n'est absolument pas réglementée. C'est aussi une des raisons de la surproduction.
Oui, c'est réglementé.
Et c'est contrôlé, je veux dire. Parce que la surproduction de triploïdes locales avec tout ce que ça peut impliquer.
On est une des rares professions pour laquelle il n'y a pas d'études sur la quantité de nourriture qu'absorbe un animal par jour. Donc il faut la quantité de nourriture disponible dans le milieu, c'est quelque chose qui varie en fonction des quantités météo. L'ensoleillement va générer la photosynthèse va générer la production de phytoplancton. On va avoir des périodes donc avec beaucoup de nourriture, des périodes avec moins de nourriture. La quantité d'huîtres mise en élevage et par les ostréiculteurs se définit au départ de manière empirique. Ensuite, à partir de cet empirisme, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, si on en met trop, ça ne pousse plus. Vous allez mettre 20 vaches dans un pré, vous allez avoir une quantité de lait. Vous mettez 40 vaches dans un pré, vous aurez plus de lait, mais moins de lait par vache. On va arriver grosso modo à quelque chose comme ça. Donc la seule chose qui existe actuellement, c'est ce qu'on appelle le schéma des structures, qui est discuté entre les affaires maritimes, Ifremer et les ostréiculteurs, qui va définir la quantité de poches maximale que l'on peut mettre en élevage à l'hectare, la quantité de pieux de bouchots maximale qu'on va pouvoir mettre par ligne de 100 mètres, le nombre de collecteurs de naissins maximum qu'on peut mettre par hectare. Le problème que vous soulevez est tout à fait exact, c'est que les moyens de contrôle n'existe quasiment pas pour faire respecter ce genre de choses. Ça demande une volonté professionnelle. Je sais qu'en Normandie, les collègues ont eu cette volonté il y a quelques années de faire appliquer un schéma des structures de manière très très stricte. Ils ont donc commandité des audits qui ont amené à une réduction des densités. Mais là, ça, c'est un travail qui va forcément demander une volonté professionnelle forte et donc de changer de mentalité et de mentalité de politique de production. C'est ce problème-là qui ne va pas être simple à résoudre.
Bonjour. Je souhaitais juste reparler du consommateur final, parce qu'on défend les intérêts, vos intérêts, les intérêts des ostréiculteurs, mais au final, ce produit, vous le développez pour un client particulier. Je voudrais savoir, lui, si on pense juste à lui, est-ce qu'il y a une différence notoire en termes, alors ça, on parle de goût, de texture, aussi pour sa santé, ses motivations pour consommer des huîtres, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre une huître traditionnelle et une huître triploïde? Alors, est-ce que lui, c'est une information qui... je trouve qu'on oublie un peu, on a tendance à oublier cette personne qui est quand même un peu importante dans cette chaîne.
Je trouve que c'est compliqué parce que ça dépend des régions. Chaque région va avoir un produit du terroir, la situation du parc, le type d'huître qu'il met sur son parc, son travail. Une huître, d'ailleurs, plus vous allez la travailler, plus elle sera charnue. Le soleil, la pluie, les températures extérieures vont jouer sur la qualité de l'huître, donc ça reste assez difficile de vous affirmer quelque chose. D'une manière, je parle à titre personnel, d'une manière générale, je trouve les huîtres triploïdes moins charnues que les huîtres naturelles. Maintenant, j'ai vu des huîtres triploïdes très charnues. La technique d'élevage aussi joue, donc vous voyez, c'est assez difficile de vous affirmer quelque chose de précis.
Il faudrait dans ces cas-là annuler, enfin détruire la triploïde et dire que le consommateur pour.
Oui, tout à fait.
Oui, mais...
Après, s'il vous plaît, je pense que lorsqu'un consommateur mange une huître, il mange en même temps un métier, une profession. C'est un plaisir, c'est un repas de fête. Et c'est la preuve, c'est que dans les maisons d'huîtres, jamais vous voyez une personne en blouse blanche avec des tubes et des laboratoires. On voit toujours des capteurs d'huîtres pour expliquer la naissance de l'huître. On n'explique jamais le fait qu'une huître vient en laboratoire parce que c'est pas vendeur. Et donc c'est comme l'histoire de la saisonnalité. Nous, lorsqu'on retourne sur les marchés au mois de septembre, on a vraiment des gens qui veulent manger des huîtres par plaisir et non par obligation. Il ne faut pas oublier que notre produit est un produit plaisir. C'est pas pour ça, il faut que derrière, on ait une image traditionnelle. Et c'est ce qui embête d'ailleurs les personnes qui font actuellement des huîtres artificielles. C'est que s'il y a un étiquetage obligatoire, cette image artificielle risque d'être un petit peu dommageable pour la
vente. Vous n'avez pas la certitude de lui garantir qu'il aura des huîtres meilleures ou...
Après, ça n'a rien à voir, c'est comme un vin, c'est les différents terroirs. Moi, il y a des personnes qui vont préférer une huître plus maigre, une huître plus salée, une huître plus douce. Meilleure, ça ne veut rien dire.
Vous parlez de meilleure pour la santé, je crois.
Une huître correspond au consommateur. Et chaque consommateur est différent. Pardon ? Oui, mais le goût, vous aimez...
Il y a deux choses différentes.
Quelle huître vous aimez ? Vous aimez un 2 spécial ou vous aimez un 4 fine ? C'est totalement différent. Une huître de Marraine, une huître de Normandie. Vous préférez prendre avec un vin rouge frais ou un muscadet ? Les goûts, c'est très difficile. Nous, par contre, on a un terroir, on a une façon de travailler, on veut donner envie de manger des huîtres encore. Et on est aussi les garants de l'estran. Pour continuer ce qu'a dit monsieur, par rapport aux pollutions, nous sommes les garants de l'estran et le jour où il n'y aura plus d'ostréiculteurs sur l'estran, il n'y aura plus de personnes qui pourront alerter les pouvoirs publics sur une pollution. Et c'est pour ça que je pense que dans l'intérêt des consommateurs et des personnes qui veulent continuer à aller sur le littoral, il est important que l'ostréiculture reste et soit durable.
Si on veut élargir un petit peu le débat sur des productions mondiales, les problèmes de mortalité avec le virus OSHV1 ne sont pas apparus en France en premier lieu. C'est d'abord apparu en Corée, c'est d'abord apparu au Japon. Donc il faudrait peut-être aller regarder quelles sont les solutions qu'appliquent les Japonais, par exemple. Une délégation de Japonais est venue en Bretagne lors du salon de la conchyliculture de Vannes il y a 2 ans.
Et ils étaient complètement effarés de voir que dans les exploitations françaises, les huîtres triploïdes étaient mélangées parmi les huîtres naturelles. Ils ont limité la production d'huîtres triploïdes et ils l'ont réservée dans des endroits bien précis pour étude et pour voir un petit peu les incidences sur le milieu sur du long terme avant de tolérer cette production sur des échelles plus larges. La Corée, qui a dû faire face au même problème, est revenu à des techniques de captage beaucoup plus traditionnelles sur des coquilles d'huîtres et sur des coquilles Saint-Jacques. Ça a été une autre manière de répondre, mais le coût de la main-d'œuvre est un peu différent dans ces pays-là. Je suis aussi dans l'obligation de vous dire que certains pays ont répondu exclusivement par des productions en écloserie. Bon, voilà, moi, c'est pas du tout mon souhait. Le Japon était quand même le troisième pays producteur mondial. Il est descendu de cette place-là après le tsunami il y a quelques années. Était le deuxième pays producteur au monde. Donc c'est quand même des choses qui sont relativement importantes. La France se situait au cinquième ou sixième rang, quelque chose comme ça.
Je propose une dernière question, ensuite conclusion et puis message à faire passer, parce qu'il y a une question sur message à faire passer. Moi, j'ai deux ou trois choses à dire, mais autour de la table aussi, par rapport à vous qui êtes représentant de la presse et lien entre le consommateur et le producteur. La question.
Oui, j'ai cru comprendre que vous parliez de subventions ou de soutien en cas de grosse mortalité d'huîtres tout à l'heure. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que voilà, donc en gros, est-ce que ceux qui ont une grosse mortalité reçoivent de l'argent? Si oui, est-ce que c'est dans un cadre privé assurantiel professionnel ou est-ce que c'est à nouveau par des circuits différents, éventuellement le contribuable, parce que il y a le consommateur, mais il y a aussi le contribuable. Est-ce que le contribuable éponge la casse de la mortalité d'huîtres? Ma question.
Je vais avoir un petit peu du mal à vous dire qui finance ça. Donc c'est un système qui s'appelle les calamités agricoles, qui est mis en place en cas normalement de calamité exceptionnelle. Le problème, on est sur quelque chose de récurrent depuis 2008, donc ce système d'indemnisation ne devrait plus exister. Il est depuis quelques années dégressif et était basé sur la base de déclaration sur l'honneur. Ce genre de problème amène à un risque de fraude et moi me paraît relativement injuste, c'est-à-dire que les gens qui sont plus doués derrière un bureau et derrière un ordinateur vont toucher beaucoup plus d'argent que ceux qui sont à passer plus de temps sur leur parc. C'est quelque chose qui me paraît pas vraiment juste et vraiment logique. Quand en plus ces systèmes d'indemnisation permettent de faire perdurer des pratiques qui nous paraissent un peu dangereuses. Excusez-moi l'expression, mais si c'est donner des subventions pour produire quelque chose de pas bien, je pense qu'il vaudrait mieux s'abstenir. La profession a vécu, l'ostriculture a vécu sans aide et sans subvention, hormis quelques aides à l'installation européenne, des choses comme ça, mais en fonctionnement, elle a vécu sans aide et sans subvention jusqu'en 2008. Je pense pas que de rentrer dans un tel système, ça va nous permettre de grandir.
Bien, en conclusion, je voudrais vous remercier de votre présence, de dire toute l'importance pour nous, enfin moi politique, et les représentants des professions ou des citoyens consommateurs à la table, l'importance qui est la vôtre pour faire circuler l'information et l'éthique du métier, c'est l'information la plus objective possible, évidemment, dans le sens où il y a un problème général sur la question de l'ostréiculture, sur la profession. Donc les représentants de l'ostréiculture traditionnelle qui sont ici regroupés en association ont un propos, un savoir-faire à mettre en avant. Lequel savoir-faire par rapport aux équilibres des milieux? Et là, c'est le sénateur écologiste aussi qui parle, très sensible à la qualité des produits, mais aussi aux équilibres de milieux sur le littoral et d'une façon globale. que vous pouvez alors mener un certain nombre d'investigations complémentaires, aller voir comment ça se passe véritablement dans les écloseries, et tous ces aspects-là. Et sur les consommateurs, vous avez dit tout à l'heure, ils étaient quelque peu oubliés. En fait, ils sont au cœur de l'histoire, dans le sens où la première fois où le débat a eu lieu au Sénat, c'était dans le cadre de la loi consommation. La demande, dans un premier temps, c'est que le consommateur sache ce qu'il consomme. Ça, c'est essentiel, comme dans tous les autres domaines. C'est le consommateur informé, responsabilisé, qui doit faire le choix. Et là, pour cela, il faut de la transparence, il faut de la traçabilité. Voilà, autant de sujets qui sont demandés. Maintenant, je vais vous ramener, vous inviter au 10 juin, donc colloque ici au Sénat. Je crois qu'il y aura du monde. Et on va, là encore, d'une façon ouverte. Moi, je souhaite qu'il y ait un ou des représentants des écloseurs qui soient là, qui viennent nous expliquer comment ils pratiquent, c'est quoi leur métier. Des scientifiques, évidemment, il y en a, au-delà des frontières nationales. On fera tout ce qu'il faut pour que notre responsabilité à nous politiques, c'est on fait avancer. Il y a un vrai problème au milieu d'un tas de problèmes sociétaux. Il faut vraiment qu'on regarde les choses en face. Très volontairement, j'ai mis l'accent tout à l'heure sur le côté pluripolitique. Moi, je suis sénateur écologiste. Si c'était que l'affaire d'un sénateur écologiste, c'est encore l'affaire des écologistes. Maintenant, tout le monde, surtout les échiquiers de l'Assemblée et des assemblées, tout le monde a cette conscience. Tout le monde représente des consommateurs, représente des activités économiques. À nous de prendre nos responsabilités. Et là, les autres partis politiques auront aussi la parole, évidemment, pour qu'on sorte de nos clivages et qu'on sorte de nos guerres entre les... On parlait tout à l'heure des enfants et des petits-enfants, donc des générations futures. Comment faire en sorte que les choses puissent durer et d'une façon vivable pour les générations futures? C'est le fond de la pensée. Donc le consommateur est au cœur de l'affaire. Maintenant, c'est vous qui avez, avec vos crayons, le crayon en ce début d'année est à l'honneur quelque part, au sens très noble de l'honneur. Voilà, nous on vous fait confiance parce qu'il y a vraiment besoin de vous pour que les consommateurs, les citoyens... Je vais vous dire même une dernière chose. Lorsque le débat a eu lieu au Sénat, c'était une minorité de sénateurs qui étaient au courant de l'huître triploïde, de la manière traditionnelle, enfin certains du littoral évidemment, mais les autres ils n'étaient pas au courant. Et certains que je trouve pour moi extrêmement brillants, ben, ils ne savaient pas non plus. Et hier soir, c'était les vœux du groupe écologiste du Sénat. Donc, il y avait des écolos d'un peu partout, plein d'intellectuels. Enfin, il n'y a pas que des intellectuels chez les écolos, heureusement. Mais il y a un certain nombre d'intellos qui étaient là. Et on parlait de ça. Tiens, c'est des huîtres qui viennent de l'ostréiculture traditionnelle. Et on commence à leur parler du problème. Ils n'étaient pas au courant non plus. C'est-à-dire que les citoyens ne sont pas au courant. Il y a quelques articles, des émissions de télé, mais je crois qu'il faut aller au fond des choses et véritablement dire objectivement, voilà, il y a un sujet. Au Sénat, on le saisit, la profession s'exprime, mais l'ensemble de la profession va s'exprimer, et ensemble, eh bien, on va trouver les solutions durables qui conviennent. Je voudrais vous remercier.